Je vais vous lire la prière proposée par le Saint-Père pour l'année jubilaire, l'année de la miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
Amen.
Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père Céleste et nous a dit que te voir, c'est le voir, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Ton regard rempli d'amour a libéré Zachée et Matthieu de l'esclavage de l'argent. La femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures. Tu as fait pleurer Pierre après son reniement et promis le paradis au larron repenti. Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s'adressant à nous, si tu savais le don de Dieu. Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde. Fais que l'Église soit dans le monde ton visage visible, toi, son Seigneur ressuscité dans la gloire. Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse pour ressentir une vraie compassion à l'égard de ceux qui sont dans l'ignorance et l'erreur. Fais que quiconque s'adresse à l'un d'eux se sente attendu, aimé, pardonné par Dieu. Envoie ton esprit et consacre-nous tout entier de son onction pour que le jubilé de la miséricorde soit une année de grâce du Seigneur et qu'avec un enthousiasme renouvelé, ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle, aux prisonniers et aux opprimés la libération et aux aveugles qu'ils retrouvent la vue. Nous te le demandons par Marie, Mère de miséricorde, à toi qui vis et règne avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
Amen.
Voilà, je vous invite à vous asseoir. Je souhaite commencer mon propos en vous remerciant parce que vous m'avez obligé à réfléchir. Eh ben c'est pas mal. À écrire, à lire et à prendre au sérieux cette année de la miséricorde. Alors merci à vous. Et j'espère que le fruit de mon propos vous éveillera à prendre au sérieux cette démarche de la miséricorde en cette année jubilaire. La deuxième chose que je voudrais vous dire, vous êtes concrètement engagé, j'en ai conscience, dans une œuvre de miséricorde comme Conférence Saint-Vincent de Paul. Notre pays, notre continent est très marqué par des œuvres d'Église qui se sont engagés au nom du Christ à faire miséricorde. J'en énumère quelques-unes, les hôpitaux, être attentif aux malades, toutes les œuvres d'éducation, que ça aille de l'école à l'université. Faire miséricorde, c'est aider à découvrir la vérité et à quitter l'ignorance. Il y a bien d'autres œuvres. Ici, la charité est en acte avec vous, avec le Secours catholique, avec l'association Captif la Libération, etc. Mais enfin, il y a une chose qu'il faut voir quand même, c'est que nos institutions, c'est une chose, et que l'âme de la miséricorde peut être oubliée. C'est-à-dire que nous avons des œuvres qui doivent apprendre à se convertir toujours, toujours, toujours. Les générations se succèdent et ne se ressemblent pas. Et enfin, elles se ressemblent parce que nous sommes tous pécheurs et que nous avons sans cesse à découvrir la nouveauté de la miséricorde. Quand vous m'avez demandé, Monsieur Mallet, de causer sur la miséricorde et que j'en parle régulièrement autour de moi, j'ai découvert que la miséricorde fait peur. Je dis qu'elle fait peur, vous allez me dire non. Mais enfin, vous savez, si on commence à tout pardonner, on commence à relativiser le mal. Puis si on commence à tout pardonner, où est la limite ? Et puis, dire le Notre Père, j'ai entendu des paroissiens m'avouer que dire le Notre Père, toutes les phrases du Notre Père, ça passe pas. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, arrêtez mon père, parlons de choses sérieuses, quoi. On va arrêter de parler de trucs, on va essayer de parler sérieux. Eh bien, je vous encourage à entrer dans cette année de la miséricorde, à prendre au sérieux non pas notre posture qui est offusquée du pardon, mais à prendre conscience de la beauté, de la richesse, de l'inouï du pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ça, c'est pas simple. À l'évidence, accueillir un peu de l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme, marqué par le péché, c'est une entreprise qui nous incombe à tous. Faisons un petit détour par la Bible. La miséricorde nous fait entrer dans une dimension féminine de Dieu. On est habitué au commandement, on est habitué à la paternité de Dieu, à la toute-puissance de Dieu. La miséricorde nous fait toucher, contempler les entrailles de Dieu. Contempler Dieu et la miséricorde de Dieu, c'est contempler celui qui me donne la vie, qui me redonne la vie depuis ses entrailles. La miséricorde de Dieu, c'est un cœur qui se penche sur la misère de l'homme pour lui redonner vie. Dans l'Ancien Testament, il y a deux mots qui expriment miséricorde. Alors, par prétention, je vais vous les nommer, mais enfin voilà. Il y a hesed, qui signifie bonté. Oui, Dieu est plein de bonté, il fait grâce et il est amour fidèle. Il a une bonté et il a une fidélité dans sa bonté. Puis il y a un autre mot qui est ra'amin et qui fait référence aux entrailles. Et la miséricorde, elle est là. L'intelligence de Dieu, elle est là. Elle est dans les tripes. Elle est dans le sein. Elle est dans l'utérus. Elle est dans les reins de Dieu. La plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes des dames et vous me comprendrez aisément que le souci, l'attention de vos enfants, il est effectivement intellectuel, mais vos tripes, votre cœur, vos entrailles, elles sont là, vous avez donné naissance à vos enfants, peut-être pas toutes, mais vous voyez bien que l'intelligence, elle n'est pas uniquement au niveau du cerveau, elle est aussi là, dans ce bas-ventre. Eh bien, il nous faut, par la miséricorde de Dieu, contempler ce Dieu féminin, qui vient nous donner et redonner la vie depuis ses entrailles. Vous connaissez ce tableau qu'on appelle fils prodigue, qui se plonge dans les entrailles du père avec ses godasses complètement usées. Et il met sa tête, il plonge sa tête, comme s'il fallait qu'il rentre dans le ventre de son père. et puis vous avez deux mains protectrices. Et si vous regardez de près, il y en a une féminine, il y en a une masculine et une féminine. Une manière de nous dire que Dieu vient nous protéger, nous redonner vie, nous remettre debout depuis ses entrailles. Alors, je vous invite à contempler cette figure féminine de Dieu qui vient, qui nous accueille, qui nous protège. J'espère ne pas vous choquer en nommant des organes féminins, mais une manière de voir combien qu'il y a tout l'aspect de protection. Alors retenons cette bonté de Dieu qui nous engendre à la vie telle une mère. Il nous comprend, il nous connaît plus que nous-mêmes. J'ai fait une petite expérience à l'hôpital, peut-être certains d'entre vous aussi. Et il y a un soir, une nuit qui a été insupportable, mais qui m'a fait comprendre quelque chose. Il y a une personne âgée, malade, qui n'a cessé de crier. Est-ce qu'elle criait ? Pourtant, près de toute jeune, la fille. Maman. Et peut-être êtes-vous aux vos heures de désespoir et vous vous appelez maman. On voit l'importance d'une maman. Eh bien, osez vous tourner vers Dieu en criant maman. Maman, la Vierge Marie, mais la maternité de Dieu qui est plein de miséricorde et qui nous écoute, qui nous attend. Dans le Nouveau Testament, la miséricorde divine, c'est le visage du Christ. Jésus est miséricorde parce qu'il nous rend visible la présence de Dieu. Et ce Dieu riche en miséricorde, eh bien Jésus nous le montre en nous, en s'approchant de nous, en nous touchant, en nous parlant. Eh bien, puissions-nous, comme témoins du Christ, nous laisser toucher par le Christ lui-même qui vient nous relever, qui vient se faire proche de nous. Prenons conscience de la bonté, de la miséricorde de Dieu, nous pouvons peut-être en retour nous dire, mais alors, le mal, on relativise tout, on comprend tout le monde, on parle plus du mal, tout va bien, c'est un peu le monde bisounours. La miséricorde ne consiste pas du tout à banaliser le mal ou à le relativiser. Les commandements de Dieu, l'aspect paternel de Dieu, l'aspect, pour parler un peu psychologie, la paternité qui impose la loi, met en lumière le mal. Mais il ne suffit pas de dévoiler le mal, il faut aussi le guérir. Et pour le guérir, il faut cette miséricorde. Avoir conscience, une conscience aiguë du bien, avoir une conscience aiguë du pardon de Dieu, permet d'avoir une conscience aiguë du mal. Et ceci permet d'avoir vraiment de saisir la grandeur de la miséricorde divine et d'accueillir cette puissance guérissante. Je crains que parfois les chrétiens, nous soyons dans le registre du permis défendu, du juste de l'injuste, du légal et de l'illégal. Donc le péché, c'est ce qui n'est pas permis, c'est ce qui n'est pas autorisé, c'est, voilà, c'est simple, mais ce n'est pas ça le péché. La différence, elle est entre sainteté et péché. C'est-à-dire que le péché, ce n'est pas d'avoir mal fait quelque chose. C'est trop facile. Le péché, c'est de découvrir cette non, cette volonté de me couper de Dieu. Alors je peux faire quelque chose de mauvais qui n'est pas un péché. Prenant conscience de l'infinie miséricorde de Dieu et de mon refus d'accueillir d'être aimé de Dieu, je découvre un mal qui est mon péché. Et donc, je vous invite à découvrir, non pas relativiser le mal, nous sommes éduqués pour savoir ce qui est bien et mal, mais dans le chemin vers Dieu, nous risquons de tomber dans le volontarisme, dans le scrupule, ou dans le laxisme à l'inverse. Cheminer vers Dieu, cheminer dans une intimité avec le Seigneur, c'est d'abord découvrir son cœur qui m'aime et dans son cœur, prendre conscience de toutes mes réticences, mes renoncements, mes aigreurs qui m'empêchent d'aller vers lui. Ainsi, c'est parce que nous nous reconnaissons concrètement pécheurs que nous pouvons puiser à la miséricorde divine, puiser la douceur du pardon et la force de nous convertir. Je suis pas trop long ?
Non, non.
Je vous casse pas trop les pieds ?
Non.
Merci, madame. Vous êtes pleine d'indulgence à mon égard et je vous en remercie. Je le fais peut-être maladroitement, mais comprenez mon enthousiasme à faire ce grand plongeon dans ce cœur à cœur avec le Seigneur, dans la prière. Et dans ce regard, dans cette plongée de la miséricorde de Dieu, vivre pour vous-même une libération, vivre une révélation qui me libère de l'accusation et de ma culpabilité. Tous ces gens qui nous cassent les pieds avec la culpabilité chrétienne, c'est de la gnognotte. Parce que, alors les chrétiens sont responsables dans ce discours, parce que nous entretenons une vie spirituelle moraliste. Mais nous ne décollons pas, nous ne plongeons pas dans cette relation amoureuse avec le Seigneur. Jésus nous permet d'entrer dans la paix de celui qui, se reconnaissant pécheur, se sait en même temps inconditionnellement aimé par le Père de miséricorde. Saint Augustin avait dit que si Dieu aime le pécheur, il hait le péché. La miséricorde ne va donc pas justifier le péché, encore moins nous permettre de nous y complaire. Elle va avec tendresse et patience nous presser d'entrer dans ce chemin difficile de conversion à la lumière et à la vérité qui nous libère. La miséricorde nous rejoint là où nous en sommes et sa finalité propre, c'est de nous rétablir dans la justice divine, c'est-à-dire de nous introduire dans une complète communion d'amour avec Dieu. Pour dire les choses autrement, devant le Christ, nous ne sommes plus, et je me répète, dans le permis ou dans le défendu, dans le juste ou l'injuste, nous sommes dans le registre du péché ou de la grâce. Loin de Dieu, par ma volonté de ne plus être aimé, proche de Dieu, dans la confiance de me savoir aimé au-delà de ma médiocrité, même si j'ai conscience de ne pas le mériter. Ça, c'est tout le chemin qui nous incombe. Ce chemin de conversion implique une relation amoureuse à Dieu et ensuite un renoncement au péché et un retour à l'observance de la loi divine. Vous comprenez que devant ma question de savoir si on relativise ou non le mal, c'est une attitude seconde. C'est parce que je suis à la recherche d'une relation personnelle avec le Seigneur que je découvre de manière éclairante les ombres de mon péché dans lequel je m'entretiens un peu. Voilà. Et nous tombons dans ces petites habitudes douceâtres et de médiocrité. Et nous oublions d'entreprendre l'œuvre de salut que Dieu veut faire dans nos cœurs. C'est ainsi que la miséricorde est une relation à découvrir. Vous connaissez, Jésus utilise des paraboles et parfois il est bon d'avoir des images. Vous connaissez cette image de la fameuse corde à nœuds. Chaque péché nous coupe de Dieu et sectionne la corde qui nous relie à lui. Et chaque sacrement de réconciliation restaure le lien en faisant un nœud à la corde. Ainsi, de nœud en nœud, la corde se raccourcit. Vous le comprenez, ça. Je n'ai pas porté de corde, mais ça se comprend. Eh bien, cette manière de nous faire comprendre que mon péché devient source de grâce, parce que pardonner, il nous permet de cheminer, de nous approcher, de nous rapprocher de Dieu. Et puis, moi qui j'ai jamais su monter à la corde.
Moi non.
Voilà. Et ben, il y a un truc qui m'a permis de monter un peu à la corde, c'était la corde à nœuds. Et ben, peut-être que ces nœuds nous permettent de grimper peut-être facilement en s'appuyant sur les nœuds. Alors, je vous demande pas de faire votre gymnastique en montant au plafond, mais peut-être prendre conscience que ma faiblesse peut-être peut devenir la reconnaître dans la bonté de Dieu, et bien qu'elle me permette d'éprouver ce chemin et de faciliter ce chemin vers lui. Vous savez, Dieu tire du bien même de notre péché et fait de celui-là une occasion de l'approcher. La parabole, pour moi, qui parle le mieux de la miséricorde, est bien entendu celle du fils prodigue, qui, après avoir brûlé la chandelle par tous les bouts, revient à son père et reconnaît son péché en implorant son pardon et en n'osant même plus revendiquer son identité de fils. Ce qui est remarquable et que souligne cette parabole, c'est que la miséricorde du Père nous ramène justement à ce que nous sommes originellement, c'est-à-dire un enfant bien-aimé. Elle nous refait à neuf. Dieu ne voit pas, ou en tout cas il pleure sur ce qui nous a éloignés de lui. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir son fils. Ça, c'est l'expression inconditionnelle de Dieu pour chacun de nous. Osons le penser pour nous-mêmes et peut-être envers notre prochain. Il faut l'avouer, aimer son prochain et lui faire miséricorde, surtout s'il est vraiment proche en plus. Comment faire miséricorde à un père, un frère, une mère? Vous connaissez peut-être pour vous-même ou pour, en tout cas comme conférencier, vous le savez, des parents alcooliques, abusifs, violents. Comment aimer celui qui nous meurtrit et nous gâche la vie? Comment renoncer à la rancune, à la vengeance et à regarder notre frère comme Dieu lui-même le regarde et nous appelle à le regarder? Eh bien, reprenons cette parabole du fils prodigue, parce qu'il y a un frère aîné, lui. Il nous ressemble quand même pas mal. Moi, j'ai très bien fait. Je suis allé à la messe régulièrement. J'ai travaillé pour le bon Dieu. J'ai participé aux œuvres d'église. Bon, ça va 5 minutes. Hein. Le regard du fils aîné sur son frère, on peut très très bien le comprendre. Mais nous oublions que la joie du père, c'est d'avoir trouvé son fils. Et nous oublions que la joie du père, c'est d'avoir son fils auprès de lui. Et nous oublions que la joie des enfants, c'est d'être avec leur père. C'est pas de faire pour le père. Il y a un drame de beaucoup de chrétiens, c'est de faire. On a fait. Et du coup, on veut une récompense, on veut un mérite. On a gagné notre ciel quand même. On a quand même fait mieux que les autres. Alors là, on est complètement à côté de la plaque. Et ça donne, quand on est dans ce registre-là, des gens aigris, des gens qui demandent des reconnaissances, des médailles. Ma joie, c'est de vrai pour mon père, en servant mon frère, et de goûter la joie de voir mon frère vivant. Pétard, ça, pas simple. Parce que là, je parle devant un micro, vous êtes vachement aimable, enfin, vous êtes très aimable, vous êtes très poli, vous m'écoutez avec beaucoup de, peut-être pas d'attention, mais enfin, beaucoup de bienveillance, etc. Mais quand on rentre à la maison et que sur le chemin, sur le trottoir, il y a le clodo ou la personne qui m'agace, bon. Peut-être à la maison, en famille. Prenons conscience de la miséricorde de Dieu. C'est lui qui nous donne la grâce de pardonner, d'aimer à nouveau. Contemplons cette parabole en prenant conscience d'être déjà pour nous. Parce qu'à mon avis, ça ne peut être compris que si je le découvre déjà pour moi, cette indignité qui est la mienne, je suis un pauvre type, je suis sous terre et j'ai conscience d'être établi dans une dignité. J'ai un anneau, j'ai une robe, j'ai un parfum. Dieu me donne la grâce de la dignité d'enfant de Dieu. Un anneau, c'est l'alliance. La robe, c'est la dignité. Nu. Imaginez-vous nu. Eh bien, Dieu prend soin de moi pour ne pas être nu. Et peut-être nu, j'ai peur. Mais si je prends conscience de cette dignité, peut-être puis-je découvrir une certaine protection, une certaine estime de moi-même pour avoir l'estime des autres. Et puis le parfum, c'est la bonne odeur. Je me rappellerai toujours d'une gamine. Parce qu'on parlait de la... Quand ça pue, ça, c'est la mort. Quand ça sent bon, c'est la vie. Alors il y en a un qui c'est normal. Maman, elle sent... Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire pour le papa, mais maman, elle sent bon parce qu'elle est comme Dieu, elle donne la vie. C'est sympa hein, d'entendre ça. Eh bien oui, c'est bon de sentir bon. Alors, peut-être pour l'odorat, mais il y a des manières et des manières de sentir bon autour de soi. Enfin, pour donner la vie. Éprouvons cette miséricorde, cette gratuité de la miséricorde pour nous-mêmes. La miséricorde, elle rime avec patience, confiance, fidélité, bonté, gratuité. Alors, clairement, en s'aventurant dans un truc comme ça, ça nous rend vulnérables. Nous ne pouvons pas prendre le chemin de la miséricorde, de l'amour, sans nous dévoiler et nous reconnaître vulnérables à la souffrance de l'autre, à ma propre souffrance. Mais puisque j'ai cette dignité de Dieu, sans abattement, sans peur, au-delà de la compassion, au-delà de l'empathie, au-delà du pardon, cette miséricorde qui m'habite, elle nous rend capable d'aimer l'autre à la manière de Dieu. Et la parabole du bon samaritain en est l'illustration parfaite. C'est ce que nous voulons vivre dans notre engagement en nous mettant au service du pauvre. Envoyé au nom du Christ, vous servez le Christ et le Christ vous sert. Vous pouvez mettre le mot pauvre à la place du Christ. Envoyé auprès des pauvres, vous servez les pauvres et les pauvres vous servent. À chaque fois que je pense à ces idées-là, je pense qu'elle est décédée, la pauvre femme, c'était rue Santerre. Je ne me rappelle plus de son nom. J'étais allé la voir, elle a eu une attaque dans la rue, il y a une vingtaine d'années, enfin oui. Et alors, elle me confiait que son drame, c'était de ne plus se rappeler du prénom de ses petits-enfants. Et alors, elle m'a dit, il faut quand même que je vous dise une joie, quelque chose qui m'a bouleversé. Il y a l'infirmière qui est venue, puis elle m'a trouvé en pleurs. Alors l'infirmière, elle devait être antillaise, hein. Ah, mais madame, pourquoi vous pleurez comme ça? Vous êtes chrétienne ou pas chrétienne? Ah, ben oui, je suis chrétienne. Enfin, vous savez, je suis dans un état que j'ai du mal à admettre. Et, attends, il y a un truc que je comprends pas. Vous êtes chrétienne ou pas? Ah, ben, elle a dit, écoutez, on va dire les choses simplement. Moi, quand je viens vous servir, vous soigner, c'est le Christ que je viens servir. Et vous, quand je viens vous visiter, c'est le Christ qui vient vous visiter. Alors moi, j'apprends à servir le Christ dans votre personne, et vous reconnaissez le Christ qui vous sert. Alors, on pourrait prendre la visitation de la même manière, etc. Mais osons faire de nos rencontres, vécues dans la miséricorde, des visitations, pour... vivre, goûter, nous apporter les uns les autres la tendresse infinie de Dieu. La miséricorde de Dieu nous oblige quand même à quelque chose. C'est à être lucide, réaliste, parce qu'elle nous oblige à aimer l'autre comme il est. Et ça demande beaucoup de patience, beaucoup de temps. Beaucoup de compréhension, beaucoup de renoncement. Nous voudrions que l'autre, il avance à notre pas. Ça, c'est de l'embrigadement. Ça, c'est la politique de l'adjudant. C'est au pas de Dieu, dans le mystère de Dieu et de la du mystère de la personne. Alors, quand nous voulons nous approcher de notre prochain, osons sans peine, sans abattement, sans peur, nous approcher de l'autre, mais prenons conscience que ce n'est pas pour le modeler. C'est Dieu seul modèle. Dieu seul redonne la vie. Moi, je ne suis qu'un petit signe auprès de lui. Vous savez, la miséricorde d'un homme pour son épouse... l'aimer telle qu'elle est. Il aime sa femme, mais enfin, en tout cas, elle a peut-être des défauts. Il va pas la changer du jour au lendemain. Il faut qu'il l'aime telle qu'elle est. Bah oui. Et s'il cherche à vous modeler, vous avez tous les défauts de la terre. Mais il vous aime, il vous adore tel que vous êtes. Et puis aimer son mari, qui a peut-être des défauts sur la propreté ou des vieilles habitudes ou des machins. Je me suis gardé de prendre des exemples de dames. Parce que là, je sortais pas vivant. Là. Mais on voit bien que dans la relation amoureuse, aimer l'autre... c'est l'aimer tel qu'il est et de le servir. Alors, on peut espérer que ça bouge un peu, mais enfin... les traits du caractère sont un peu comme les traits du visage. Ça va pas toujours, on s'améliore. Et puis, il y a aussi... il n'y a pas d'enfants ici, mais la miséricorde des enfants pour leurs parents. Les parents qui vieillissent. Et alors, bien évidemment, je pense... à la miséricorde des parents pour leurs enfants, qui prennent des chemins parfois compliqués que vous ne comprenez plus. Bah, faut les porter dans la prière et puis les aimer. Notre cœur est capable de faire des merveilles quand il se laisse nourrir de l'amour miséricorde de Dieu. C'est la source à laquelle vous pouvez, nous pouvons puiser de manière inépuisable. Je voudrais vous faire... J'ai encore le temps ou pas du tout? Quand vous en avez marre, vous me le dites. Hein, vous faites un signe, on dort. Nous sommes tous débiteurs. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres. Devant Dieu, nous sommes tous dans la logique d'être débiteur devant le Seigneur. Alors, une consigne, pas de règlement de compte. Ça, c'est une attitude d'enfant dans une cour d'école. Ah, malheureusement, la cour d'école, elle s'élargit au monde. Et la parabole du serviteur impitoyable en donne une illustration claire. Le maître lui a remis sa dette de 10 000 talents. C'est moi. Et il étrangle le compagnon qui, lui, doit 100 deniers. 600 fois 1000 fois moins. Eh bien, devant Dieu, nous sommes tous insolvable. Alors ça peut être un pauvre type, ça peut être une prostituée, ça peut être un gars qui vient de je sais pas quel pays loqueteux. Ne nous emprisonnons pas dans cette logique de nous comparer. Au contraire, libérons-nous de notre passif pour entrer dans la logique de la remise de dette. Et ça, c'est tout le sens de la démarche jubilaire. Rendre à la vie, rendre à la joie des enfants de Dieu, tous. C'est le message qu'entend la femme adultère. Les bien-pensants l'ont arrêtée, mais Jésus la remet en mouvement. Va, ne pêche plus. Nous, nous savons très bien voir, ça c'est étonnant, hein, voir le truc qui va pas pour torpiller la personne. Eh bien, la parabole de la femme adultère qu'elle nous éclaire à remettre à la vie. Il y a aussi Lazare. Jésus vient libérer du tombeau, délier. Allez, laissez-le aller. Eh bien, comme membre de la des conférences à Saint-Paul, vous voyez des tombeaux, des gens enfermés dans des problèmes insolubles, mortifères, moribonds. Allez visiter ces personnes. Et puis, à vue humaine, peut-être que vous ne verrez rien, mais priez pour qu'il y ait une grâce d'une libération, de délier. Dans votre service, gardez un guide, un modèle, un maître pour faire miséricorde. Jésus. Jésus, c'est l'amour miséricordieux visible. Il touche les cœurs par son regard, par sa parole, par ses mains, par son cœur. Il est l'ami des pauvres et des pécheurs. Eh bien, celui qui doit venir pour que les aveugles voient, les boiteux marchent, ça c'est l'évangile de dimanche, les lépreux soient guéris, les morts ressuscitent, eh bien ça passe par le sacrement du Christ qu'est l'Église. Donc, au titre de notre baptême, nous sommes des autres Christ, et en communion en Église, allons rejoindre le pauvre pour travailler à le libérer. Le bon samaritain qui se fait proche et qui ramasse le blessé, c'est Jésus et c'est l'Église. Et qui rejoint l'homme blessé et lui dit en finale, va toi aussi, fais de même. Alors, je prie ce soir pour que chacun de nous, nous fassions cette expérience de la miséricorde de Dieu, d'être guéri. Ça, cette année, il faut qu'on prie les uns pour les autres pour avoir la grâce de cette guérison. C'est pas parce que je suis pratiquant, c'est pas parce que je... Non, allez, creuse pour éprouver. C'est pas parce que je suis catho depuis longtemps, c'est pas parce que... Tous les âges, il faut que nous prenions conscience de la bonne santé de l'Église, pas uniquement de nous-mêmes, de l'Église. Prions les uns pour les autres pour que vraiment cette miséricorde de Dieu, elle agisse dans nos vies. Et que nous sachions, par nos communautés, voir, toucher, parler, écouter, aimer, pour remettre le monde debout. Il est quand même un peu tordu, hein, notre monde. Eh bien, prenons soin de lui. Alors, pour conclure, je voudrais dire deux, trois choses. D'abord, citer le pape. Il y a un petit bouquin, là, sans texte, sur la miséricorde. Ça vaut pas très, très cher. C'est moins de 10 euros. On va vous le trouver. Ça peut vous aider à avoir des images. Il a le mérite de pas être conceptuel, mais d'avoir beaucoup d'images. Eh ben, c'est bien que ces images vous aident. Chers frères et sœurs, pour conclure, laissons-nous, je cite le pape, hein, laissons-nous envelopper par la miséricorde de Dieu. Comptons sur sa patience qui nous donne toujours du temps. Ayons le courage de retourner dans sa maison et de demeurer dans les blessures de son amour en nous laissant aimer par lui, de rencontrer sa miséricorde dans les sacrements. Nous éprouverons sa tendresse si belle, nous sentirons qu'il nous embrasse et nous serons nous aussi capables de miséricorde, de patience, de pardon, d'amour. À un autre moment, il rappelle, chaque jour, chacun est appelé à être un consolateur, à être un membre humble, généreux, dans la bonté et miséricorde de Dieu, de son amour qui comprend et compatit, de sa consolation qui soulage et donne du courage. Chaque jour, nous sommes tous appelés à devenir la caresse de Dieu. Eh bien, peut-être cette image pour conclure. Chaque jour, reprendre ma journée, est-ce que j'ai été une caresse de Dieu ? Alors, pas forcément concrètement, mais objet de tendresse, de quelle délicatesse, de bienveillance vis-à-vis de Dieu. Encore deux minutes ou pas du tout ?
Oui.
L'année jubilaire, elle consiste en quoi ? D'abord, c'est nous tous. Parce que vous demandez le sacrement de réconciliation, vous le demandez... J'en doute pas régulièrement. Mais de prendre conscience que je fais partie de ce peuple pécheur, aimé, sauvé, glorifié. Et donc de faire la démarche ensemble. Donc, pensez à vous associer à une démarche collective, une démarche de jubilé du diocèse ou en paroisse ou... Sur la paroisse, on en propose trois. Alors, une à Notre-Dame, une à Lourdes et une à Rome. Cette démarche, elle commence par passer par une porte une manière concrète, physique, de dire la porte, c'est le Christ. Hein. Ma vie, je veux la vivre en suivant le Christ. Et il y a un avant et un après. Dans la cathédrale, il y a un extérieur et il y a un intérieur. Eh bien, je décide d'entrer, autant que faire se peut, avec le peu de volonté que j'ai, mais je décide d'entrer dans une intimité avec le Christ. Et entrant par la porte, je prends conscience de la beauté. Imaginez que vous rentrez dans la cathédrale Notre-Dame, la beauté, la grandeur de cette église. Une manière de nous faire comprendre que entrant dans le mystère du Christ, eh bien les choses sont belles, grandes, lumineuses. Et en entrant, je prends conscience de ma pauvreté et de mon besoin d'être guéri. Donc le pèlerinage, il repose sur l'aveu de mon péché et une pénitence. Alors préparer une confession, avant, après, quand vous voulez, hein, mais préparer une confession en prenant conscience de ce que la miséricorde de Dieu vous invite à... Quel pardon ai-je à exprimer? Quel aveu? Pas tes défauts, le Seigneur les connaît. Mais tes renoncements à être aimé, c'est ça ton péché. Franchement, je vais vous dire, moi je crois qu'il y a moins de péchés, enfin c'est pervers ce que je vais dire, mais il y a moins de péchés que... Non mais les gens confessent leurs défauts. Je suis gourmande... Heureusement que vous êtes gourmande, ça veut dire que vous avez de l'appétit, et puis que... Enfin, je mets ça au féminin, vous devinez qu'il y a du masculin. C'est une manière de botter en touche. Hein, hein, voilà. Non, mais la gourmandise, d'accord, ça, mais il y a peut-être des péchés un petit peu plus importants qui sont par rapport aux autres, par rapport à moi-même, par rapport à Dieu, qui sont des refus d'aimer, d'être aimé. C'est ça, c'est dans cet ordre d'alliance-là, c'est dans cette relation-là que s'éprouve le péché. Et puis, ensemble, la démarche, c'est ensuite dire la foi de l'Église par le credo, et puis un engagement à servir, au nom de la miséricorde de Dieu, le pauvre, quel qu'il soit. En famille, ailleurs. Pour terminer, comme ça, je vous préviens, ça va s'arrêter. Il faut que j'aie de la miséricorde par rapport. Je disais, mais c'est bien beau, on a dit des belles paroles, tout ça, aimer. Mais on voit bien qu'il y a aimer et aimer. Le mot derrière aimer, il y a des... tout et n'importe quoi. Et on peut même mettre des... Au nom de l'amour, il y a des grosses âneries qu'on fait. Il faut mettre un peu d'intelligence dans aimer. Et alors, je vous suggère une image. Vous prenez une guitare ou un violon, un instrument à cordes. Miséricorde. Voilà. Cet instrument, pour qu'il sonne juste, il faut l'ajuster. Il faut l'accorder. Et il me semble que il faut bien réfléchir ce que je fais au nom de la miséricorde de Dieu. Est-ce que c'est accordé? Parce que au nom de l'amour de Jésus, que de bêtises. Alors, dans la prière, dans le partage fraternel, dans la lecture et la réflexion, vivez la miséricorde mais prenez soin de l'accorder. Ça se comprend ce que je raconte ? Pas trop.
Il faut un exemple.
Un exemple ? Servir les clochards au nom de ah ben je l'ai reçu chez moi et puis il y a eu le feu et Clodo le gars il a foutu le feu dans mon appart. C'est gentil d'être gentil, mais c'est n'importe quoi. Faut arrêter d'être gentil de temps en temps. Faut arrêter d'être bon de temps en temps. Faut mettre un peu d'intelligence, un peu de prudence. Pour dire les choses autrement, parfois il y a du paternalisme dans... Enfin, j'aime pas trop prendre des exemples parce que c'est juger et torpiller des trucs qui sont bons, mais... Et puis je suis pas expert sur tout. Mais de mettre... Je pense que devant le Seigneur, en prenant soin de demander conseil... Après avoir l'audace de la miséricorde, et ça il faut, c'est vrai, mais d'ajuster mon sentiment parfois un peu trop... Pardon ? Non, mais dites-moi.
Sentiment débordant.
Débordant de gentillesse. Mais alors du coup, le type, il se retrouve après... Ben, je dis ça parce que c'est un exemple concret, hein, le clodo qui est allé dans un appartement et puis il a foutu le feu à l'appartement parce que il fumait tout le temps. Alors comme c'était sous ces cartons, c'était pas grave, mais enfin comme là c'était les lits et la couette, bah ça a foutu le feu dans tout l'immeuble, quoi. Donc je dis pas ce qu'il faut faire ou pas faire, c'est pas de mon ressort, et ça serait, mais de la prudence, de l'intelligence, de d'être raisonné, raisonnable et audacieux à la fois, parce que de temps en temps, il faut être audacieux. C'est pour ça que je me disais, je voulais vous laisser avec cette image d'un instrument à cordes à accorder, parce que de temps en temps, enfin, ça peut sonner faux et dangereux, et de manière un peu dangereuse. J'espère n'avoir choqué personne. Je vous remercie d'avoir eu la miséricorde de m'accueillir et de m'écouter. Je vous remercie de nouveau parce que ça m'a fait réfléchir pour moi. Amen. Quand je dis amen, les confrères, ils ont compris que j'en avais marre. Mais vous voulez peut-être dire des choses. Vous voulez peut-être réagir.
Alors, qui a envie de parler ?
Je voudrais demander pourquoi le péché de gourmandise fait-il partie des sept péchés capitaux qu'on nous a enseigné autrefois ? Peut-être que ces sept péchés capitaux n'existent plus aujourd'hui, je ne sais pas.
Ou j'en sais rien.
Eh bien, tant mieux.
J'en sais rien. J'essaye de ne pas écouter trop ça. Non, mais on voit bien que c'est un péché quand il s'agit de se détruire. Voilà. Mais comment dire, on va pas dire gourmandise, mais on dit...
Ben c'est ça.
Voilà. La gloutonnerie. C'est abusé.
C'est comme ça.
C'est dans la mesure où vous vous saoulez.
Ah ben c'est pas
voilà.
Comme ça.
Alors on peut se saouler, hein, mais ça c'est pas bien.
Mais...
voilà. Mais... Je vais couper ça parce que... Parce que là,
si vous permettez, il y a un dessin de...